Chers auditeurs, bonjour. Depuis quelque temps, Emmanuel Macron part à la rencontre des Français. Eh bien, en leur temps, les rois de France eux-mêmes partaient à la rencontre des Français. Et le meilleur exemple qui soit est celui de Louis XIV. Contrairement à l'image que l'on peut en avoir, Louis XIV n'est absolument pas un roi reclus à Versailles. Non, il s'agit d'un roi voyageur. Eh bien, c'est ce roi voyageur que se propose de nous présenter cette semaine sur storiavoce.com l'historien Christophe Levental. Il est interrogé par Marie-Gwen Carichon. Bonne écoute.
Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de nos grands entretiens. Louis XIV, c'est le roi aux trois résidences. Paris, Saint-Germain-en-Laye et Versailles. Mais surtout Versailles. On imagine même souvent que le roi y a consacré et passé toute sa vie, entre la salle du trône et le théâtre, dans le faste et le confort le plus absolu. On définit également Louis XIV comme un génie de l'institutionnalisation, voire l'inventeur de la bureaucratie française. Un roi stable, donc, qu'on se représente parfois de facto figé dans un immobilisme spatial. À partir de cette idée, on peut aisément deviner toutes celles qui ont pu en découler sur Louis XIV et plus globalement sur son règne. Mais rien n'est plus faux, Louis XIV est un roi voyageur. Pas seulement un roi guerrier, mais un roi qui aime se déplacer et qui fait de ses voyages un élément constitutif, voire essentiel, de son art de gouverner. C'est sur la silhouette d'un roi soleil voyageur et d'un voyageur persévérant que nous allons nous arrêter aujourd'hui grâce à la lecture du dernier ouvrage de l'historien Christophe Levental. Christophe Levental, bonjour.
Bonjour, chère mademoiselle.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Storia Voce. Vous êtes historien des institutions et de la noblesse, mais également spécialiste de Louis XIV. Le titre de votre livre paru chez CNRS Éditions est « Louis XIV, voyageur ». Une première question, Christophe Levental, pourquoi cette réalité du roi voyageur n'est-elle pas si évidente ?
Justement, comme vous venez très justement de le dire, l'image du roi attaché d'une façon immuable à son château de Versailles, après avoir été attaché à celui de Saint-Germain, peut-être moins connu, mais en tout cas celui de Versailles s'impose d'une telle façon que, même si certains historiens sérieux, parmi les meilleurs d'entre eux, ceux qui ont écrit les plus grandes biographies sur Louis XIV, notamment je citerai le professeur François Bluche en 1986 et plus récemment le Jean-Christian Petit-Fils, tous les deux évoquent bien sûr, pas à différents endroits de leurs gros ouvrages, les déplacements du roi, mais l'impression que l'on en garde malgré tout est que Louis XIV reste un roi attaché à sa résidence de Versailles et qu'il n'a peut-être, en dehors des grands voyages connus, en tout cas même connus des gens qui connaissent un petit peu son règne, en dehors de son grand voyage de sacre, de son voyage de sacre à Reims, de son grand voyage de mariage et de trois autres voyages, son itinérance est très mal connue et je l'ai découverte moi-même en préparant mon précédent livre sur la que j'ai intitulé Chronographie d'un règne et qui m'a servi de base pour continuer et développer la question plus précise des voyages et des déplacements au sens le plus complet du terme de ce roi.
Alors donc vous venez de nous expliquer comment était né le projet du livre et alors comment vous avez voulu étudier cette question des voyages de Louis XIV et pourquoi le projet de ce livre ?
Et justement, j'ai pensé que c'était un petit peu dommage de perdre cette documentation, de ne pas l'utiliser d'une autre manière étonné moi-même d'ailleurs que ce livre n'ait pas été écrit plutôt par quelqu'un d'autre, que l'idée ne soit pas venue à un autre historien, mais c'est ce que j'ai constaté, et je suis donc parti de cette de documentation qui m'avait été fournie par ce merveilleux instrument documentaire qu'est la Gazette de Théophraste Renaudot, créée quelques années avant la naissance du roi, en 1631, par Richelieu, et qui l'a suivi pendant tout son règne, toute sa vie, et qui donnait des informations sur ce déplacement, mais aussi sur son gouvernement, sur les personnes qu'il rencontrait. Et de ce premier livre, j'ai donc extrait, fait une petite sélection, une grosse sélection de tout ce qui concernait ses déplacements et voyages, et j'ai fait des recherches complémentaires abondantes dans des sources que je n'avais pas utilisé comme cela et à ce propos, dans d'autres sources d'époque, bien sûr, puisque sinon ce ne seraient pas des sources, et qui m'ont donné des tas d'informations complémentaires qui m'ont permis de développer considérablement cet aspect de la question et de l'analyser d'une façon, je crois, peut-être pas exhaustive, parce qu'il y a toujours des sujets, des questions qu'on laisse de côté, mais d'une façon assez complète.
Combien de temps vous a-t-il fallu pour cumuler autant de recherches et pour réaliser l'ouvrage tel qu'on l'a sous les yeux?
Alors, compte tenu de ce que je viens de vous dire, étant donné que ça, c'est un ouvrage qui sort en partie de mon précédent livre, et donc que des travaux que j'avais menés pour mon précédent livre ont servi à celui-là, on devrait augmenter bien sûr le nombre d'années, mais j'ai consacré à peu près 8 ans à une trentaine d'heures par semaine, bon, avec mes activités professionnelles bien sûr, comme toujours, en même temps.
Votre ouvrage, c'est vrai que c'est une vaste mine d'informations extrêmement précises, en date, en lieu, en graphique, en carte. Je peux pas détailler maintenant, chers auditeurs, toute la richesse de votre ouvrage. Et je vais vous laisser, Christophe Levental, si vous le voulez bien, expliquer à nos auditeurs comment vous avez structuré cet ouvrage et quelle est l'archéologie de votre livre.
Alors, l'archéologie, c'est, comme je viens de le dire pour l'une de ces parties, la chronologie de ces déplacements. Donc, tous les endroits où le roi est allé, en tout cas, tous les endroits où il a couché, sont cités, répertoriés. J'ai pratiquement aucun, je crois, lieu que j'ai laissé de côté, que je n'ai pas retrouvé pour ces nuits, sauf peut-être quelques cas où le roi à l'occasion desquels le roi revenait de voyages qu'il avait fait dans certaines régions, et dans ces cas-là il revenait un peu rapidement, plus rapidement à son endroit, à sa résidence habituelle, et dans ces cas-là la Gazette et les autres sources sont plus laconiques et oublient parfois de mentionner des quelques étapes. Donc il y a, je le sais, quelques étapes que j'ai subodoré, que j'ai donné en hypothèse, mais quelques étapes qui manquent. Sinon, j'ai tenu à signaler tous les endroits où les rois avaient couché au cours de ses voyages, au cours de sa vie. Plus les endroits où il avait dîné, c'est-à-dire comme on l'appelait à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui le déjeuner, le dîner de l'époque, donc les endroits où il s'arrêtait pour s'alimenter, s'ils étaient cités, s'ils étaient connus, et si les sources les mentionnaient. Donc première origine, l'archéologie de cet ouvrage. Puis la structure, je dirais, je l'ai conçu en quatre parties. La première partie, qui bien sûr est une présentation, devait être une présentation de tous les aspects, enfin plus autant que faire se peut exhaustif, mais je le sais qui ne peut pas être exhaustif, ne pouvait pas l'être, de tous les aspects de ces voyages, la typologie, les distances, les vitesses, les suites d'accompagnement, les détours, les promenades, les moyens de locomotion, enfin tout ce qui pouvait concerner ces voyages. Puis une troisième partie qui est sous forme de cartographie, géographie, j'ai contenu à dresser une carte pour toutes les années du roi des voyages du roi entre 1646, le commencement de ses voyages, il avait 8 ans à peine, et 1693, qui est la fin, la dernière année où il a fait des grands voyages militaires. D'ailleurs, ma chronologie, là, est divisée en trois parties, ce que j'ai appelé les années de jeunesse jusqu'en 1666, qui a vu un certain nombre de voyages du roi, notamment son grand voyage de mariage de 1659-1660, puis les années militaires de 1667 à 1693, et après ce que j'ai appelé les années sédentaires, 1694-1715, où le roi est très peu sorti de l'île de France. Le seul voyage très modeste qu'il a fait de ces années-là, c'était pour accueillir sa petite bru, la princesse de Savoie, en 1696 à Montargis. Voilà. Donc trois grandes périodes de voyage qui se retrouve dans les cartes, et enfin une dernière partie qui consiste en une longue analyse statistique de tous les aspects de tous les éléments que je dégageais de ces informations.
Et alors je précise à nos auditeurs, ce qui est très agréable, c'est que vous faites vraiment parler les chiffres avec des notes introductives et énormément de notes de bas de page pour nous permettre de vraiment remettre en perspective en fait tous ces lieux et toutes ces dates qui quand on les explicite pas, n'ont pas forcément de sens pour nous lecteurs. Vous avez évoqué votre source principale, la Gazette. Pourquoi est-elle si précieuse?
Parce que elle est faite au jour le jour par des personnes qui suivent le roi dans ses déplacements, ou en tout cas qui l'attendent dans des villes intermédiaires, que c'est donc très précisément daté, ce qui n'est pas toujours le cas de certaines autres sources. Et pour moi, c'était un élément fondamental. J'ai pris des informations dans un certain nombre de mémorialistes de l'époque qui donnaient des commentaires très intéressants. Madame de Montpensier, la cousine germaine du roi, par exemple, un jour évoque la poussière qui s'infiltrait dans les carrosses du roi, où elle évidemment se trouvait, elle, comme cousine germaine, et qui empêchait presque de se voir dans le carrosse. On imagine Louis XIV au milieu de son nuage de poussière, ce qui est une image amusante, bien sûr. Des choses qui sont commentées par cette dame, par Madame de Sévigné, par le duc de Saint-Simon, mais ces auteurs ne sont pas des auteurs qui donnent des renseignements chronologiques. Alors je les ai utilisés donc pour ces raisons-là, bien sûr, pour les mettre en citation, pour m'en servir dans mon introduction, dans ma première partie, mais pour ce qui est des informations bien chronologiques qu'il me fallait au départ, j'ai utilisé donc cette Gazette de Théophraste Renaudot, les récits bien précis et bien détaillés, les relations du Mercure Galant, ce mensuel, des auteurs très très bien documentés aussi, comme le marquis de Danjou, le marquis de Sourche, qui sont aussi des gens qui suivent le roi au jour le jour, l'un, le marquis d'Anjou, étant encore plus précis chronologiquement que le second, et d'autres mémorialistes, comme Pélisson Fontanier, qui a suivi le roi dans ses déplacements militaires, comme Dubuisson-Benet pendant sa jeunesse, je vous citais Madame de Montpensier, je citerai qui d'autre, le monsieur de Saint-Maurice, l'ambassadeur de Savoie, beaucoup de gens, mais malheureusement, comme vous le savez bien sûr, les sources ne sont pas toutes, ne durent pas éternellement, c'est-à-dire qu'elles ne couvrent pas malheureusement toujours l'ensemble de la période qu'on voudrait qu'elles couvrent. La Gazette, si, puisque elle a été créée en 1631, donc avant la naissance du roi, et a continué jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Le Mercure Galant, lui, n'a pas couvert toute cette période, ni d'Anjou, ni Sourche. Donc, juste pour certaines périodes, il y avait certaines sources à utiliser, et pour d'autres, il fallait trouver d'autres sources.
Dans votre première partie, vous qualifiez Louis XIV de voyageur impénitent. Qu'avez-vous voulu dire par là, Christophe Levental ?
que manifestement cette activité lui convenait, lui plaisait. Ça, je crois qu'on ne peut pas le nier, parce qu'il n'aurait pas voyagé aussi longtemps, aussi souvent, et jusqu'à un âge qui, pour l'époque, était quand même un peu avancé, même s'il a arrêté de voyager pour ses grands voyages militaires en 93. Il n'était pas très vieux pour les critères d'aujourd'hui, mais il était déjà dans un âge donc avancé pour l'époque, et on comprend qu'il ait mis un bémol dans ses ardeurs de déplacement, tout en continuant à se déplacer dans toutes ses résidences favorites chez ses parents, chez ses amis autour de Paris, jusqu'à Fontainebleau, Compiègne, Chambord, et chez ses enfants naturels et chez son fils le grand dauphin, mais ça restait dans un cercle assez étroit. Cela dit, donc le roi a aimé manifestement se déplacer tout au long de sa vie, et d'ailleurs l'endurance qu'il a prouvée dans les conditions dans lesquelles parfois c'est souvent même ses voyages se passaient, et je parle des grands voyages militaires, on peut dire qu'il devait éprouver un certain plaisir à faire ses voyages, sinon il n'aurait pas continué aussi longtemps et aussi régulièrement, comme vous le voyez avec mes cartes. Les voyages du roi, ce n'est pas une année ou deux ou trois ou quelques années dans son règne, c'est vraiment la quasi-totalité des années entre 1646 et 1793, l'exception étant l'année 1679, où il n'a, la seule exception que l'on trouve étant l'année 1679, où il ne s'est pratiquement pas déplacé.
Oui, en effet, si jamais il n'avait pas apprécié le fait de se déplacer, il serait resté pour le coup à Versailles, comme on le pense communément. Il aurait profité du luxe de la cour et...
Voilà, et donc, comme je vous disais, on voit le roi dans des conditions d'habitation, il déjeune dans son carrosse, il reçoit de la poussière, il s'arrête et parfois déjeune dans la boutique d'une mercière, dans une grange, sous la tente. Enfin, les tentes, il faut le préciser, les tentes du roi étaient quand même des choses assez belles. Ce n'était pas n'importe quoi, ou quand on a des représentations des tentes du roi dans les camps militaires, c'était quand même une belle tente, voilà. Mais c'était quand même une tente.
Et ce qui prouve finalement que Louis XIV connaissait bien son pays, à la fois en termes géographiques et parce qu'il allait à la rencontre des Français. De ces sujets.
Il l'a surtout bien connu, découvert quand il a fait donc ce grand voyage de mariage, qui initialement devait s'arrêter à la frontière d'Espagne, mais qui s'est étendu jusqu'en Provence, parce que Mazarin ne voulait pas faire attendre le roi de France à la frontière les décisions et les accords du roi d'Espagne qui faisait traîner les choses. Donc ils sont arrivés à Bordeaux, et comme Mazarin a vu que les choses traînaient, que ne pourrait pas conclure le mariage fin 59, Mazarin a suggéré au roi de continuer de découvrir son royaume, et donc de ne pas l'enterner à Bordeaux, et d'aller jusqu'à la Provence. Donc il a traversé le Languedoc en suivant une route d'ailleurs qu'avant lui avait suivi son père, et qu'après lui suivront ses petits-fils, les ducs de Bourgogne et de Berry, quand ils poursuivront ce que j'ai appelé la route royale et la route des princes lors de la succession d'Espagne en 1700-1701. Donc, s'ils ont suivi cette même route, le roi Louis XIV est allé jusqu'en Provence, jusqu'à hier, et même, jusqu'à hier, et il est monté faire un petit pèlerinage à Cotignac, au nord de hier, avant de repartir. Il est passé par Marseille, il est monté à Orange, et contrairement à ses petits-fils et aux autres Bourbons, lui n'est pas monté plus haut dans la vallée du Rhône, en tout cas entre Orange et Lyon. Il était déjà descendu l'année précédente à Lyon pour concrétiser le simulacre de mariage que Mazarin avait préparé avec la princesse de Savoie, pour embêter, pour inquiéter plus exactement, pour utiliser un terme plus juste, pour inquiéter le roi d'Espagne et accélérer les négociations. Donc il est allé à Lyon, mais ce projet de mariage en fait était tout à fait fallacieux. Et donc il y a une petite partie de la vallée du Rhône que le roi n'a pas connue, mais sinon il a bien tourné autour de son royaume dans ces régions-là. Il est allé au centre jusqu'à Bourges. Il y a ce que j'appelle, que j'ai montré dans mon livre, un quadrilatère délaissé, c'est-à-dire une région centrale qui correspond à peu près au massif central dans laquelle il n'a jamais pénétré pour des raisons à la fois politiques, parce qu'il n'avait pas eu de raison d'y aller, mais surtout parce que c'était une région difficile d'accès pour à cause des routes qui posaient de très gros problèmes. Les seules routes à l'époque vraiment entretenues, les grandes routes étant les routes royales, les routes de poste, donc toutes les petites routes secondaires, les routes traversières ne l'étaient pas et ne pourraient pas pu supporter le déplacement de la cour. Le roi si a parcouru plutôt des routes très 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 rustiques quand il est allé accomplir ses campagnes militaires. Avec ses armées, il est obligé de suivre des chemins très rudimentaires. Mais en tout cas, dans ses grands voyages, avec beaucoup plus de cours, beaucoup plus de monde, il n'était pas question d'aller dans certaines régions. Alors, il est allé une fois en Bretagne, il n'y est pas retourné, il aurait dû peut-être aller une deuxième fois à Brest, mais c'était en fait un faux prétexte. Il n'en a pas été vraiment question. Donc une seule fois en Bretagne, il est allé voir la mer et toutes les mers. Il a connu toutes les mers. Il s'est baigné aussi dans les rivières, ça c'est autre chose. Mais il a bien connu toutes les mers. Il a même fait des petits tours en bateau dans toutes les mers, très très proche de la côte. Il n'a pas fait de grand voyage. Et pour les frontières, alors il n'a connu les frontières que pour des raisons militaires. L'usage n'était pas que le roi de France franchisse les frontières de son royaume pour d'autres raisons. Donc c'est pour ça qu'il s'est arrêté d'ailleurs à la frontière d'Espagne pour les entretiens et pour rencontrer sa future épouse en 1660 à la frontière, donc à la Bidasoa, comme vous savez. Il n'a jamais franchi les frontières des États de Savoie, qui comprenaient la Savoie d'aujourd'hui, le Piémont et d'autres terres. En revanche, il est allé surtout dans ce qu'on appelait à l'époque les Pays-Bas espagnols et qui sont aujourd'hui essentiellement la Belgique. Et là, il a sillonné ces pays en long et en large d'une façon même étonnante que j'ai découverte moi-même en faisant au fur et à mesure de mes travaux et de mes découvertes donc de ces voyages. Et un petit peu aussi plus au nord dans ce qu'on appelait les Provinces Unies. Et puis un tout petit peu dans le Saint-Empire pour deux petites excursions. Il a traversé une partie du Saint-Empire, mais là aussi ça posait des questions, des problèmes diplomatiques, et il essayait d'éviter autant que faire se peut de franchir les frontières de l'Empire. Et évidemment, il n'est pas allé en Angleterre.
Ça paraît évident. Sans pour autant voyager autant que Louis XIV, est-ce qu'il y a eu d'autres monarques qui se sont rendus célèbres avant lui pour leur goût du voyage, ou finalement la comparaison n'a même pas lieu d'être?
Ah si, tout à fait. Au contraire, c'était plutôt un usage. Sans remonter même au roi fainéant qui, soi-disant, se promenait dans leur char à bœufs, selon l'image d'Épinal bien connue. Les rois, même jusqu'aux Bourbons et les derniers Valois et les Bourbons, et ont voyagé énormément. Et Charles IX a fait un très grand voyage de formation. Henri IV n'a pas arrêté de sillonner la France pour des raisons de pour les raisons qu'on connaît, la guerre civile et l'affermissement de sa couronne. Louis XIII a fait aussi un grand voyage de formation dans les années 1620, donc Louis XIV et ses petits-fils, et pratiquement tous ces gens-là ont fait curieusement un grand tour à la même, enfin curieusement non, parce que c'était une formation, un motif de formation évident. Donc tous ces personnages-là ont fait, sauf Henri IV qui lui l'a fait pour des raisons intérieures de politique intérieure, mais sinon Charles IX, Louis XIII, Louis XIV et ses petits-fils, tous ces rois-là, ces princes-là, ont fait ces déplacements dans leur 20e année, enfin 20e ou 20, 22, 25 ans, comme pour donc se former en même temps que en même temps qu'il y avait peut-être des raisons certainement des raisons politiques, mais des raisons de formation en même temps.
Et alors, si je me trompe pas, dans votre première partie, vous expliquez tout de même que Louis XIV est le seul roi bourbon à avoir effectué des voyages en dehors du royaume.
Voilà, je disais, sauf quand même une exception, voilà, ouais. Celle d'Henri IV en 1600, qui est allé en Savoie, et donc la Savoie n'est dans un pays qui n'était pas français à l'époque, une petite campagne militaire en 1600, mais si on néglige cette campagne, entre 1589 et 1789, Louis XIV est le seul à avoir franchi les frontières de son royaume, pour les raisons que je viens de vous dire.
Vous avez parlé donc au début de notre émission d'une séparation chronologique en trois périodes, les trois périodes des voyages de Louis XIV. Est-ce qu'on peut les définir par un trait caractéristique, ces trois périodes, ou c'est plutôt une découpe arbitraire parce qu'il faut...
C'était bien sûr commode, et comme toute découpe, c'est arbitraire. Comme je le dis dans un passage, j'aurais pu arrêter les années de jeunesse à 1652, parce que il change de genre de voyage, mais ce n'est pas arbitraire, comme je tout du tout. D'abord, les années de jeunesse sont des années de jeunesse. 1666, qui précède 1667, comme vous le savez, est une année qui est importante pour le roi, parce que il a perdu sa mère, Anne d'Autriche, qu'il aimait beaucoup. Il a quitté Paris, sa résidence, qui était sa résidence depuis 1643, pour retourner à Saint-Germain-en-Laye, où il avait passé ses cinq premières années. Donc un changement de résidence important, modification de l'emplacement de la capitale de la France, qui bougeait de Paris à Saint-Germain. Et avant le déplacement de 1682. Et puis, donc, 1667, donc, première année de la deuxième période, début des grands voyages militaires. Et c'est pour ça, donc, j'ai appelé la première partie les années de jeunesse, la deuxième partie les années militaires. Et troisième partie, évidente, comme je l'ai dit tout à l'heure, les années sédentaires, puisque à partir de 1694, il n'y avait plus de voyages militaires, et il n'y avait plus eu que quelques modestes excursions une seule modeste excursion à Montargis, en dehors de ses résidences habituelles.
Oui, Louis XIV se repose de tant d'années de voyage.
Il se repose, non, parce que Louis XIV ne s'est jamais reposé jusqu'au tout dernier moment de sa vie. D'ailleurs, son dernier voyage a été de Marly à Versailles, parce qu'il habitait Marly au mois d'août 1715, et quand il s'est senti vraiment très mal, et il savait que le roi Soleil devait se coucher à Versailles dans la solennité de son château. Donc il a fait ce dernier petit voyage modeste, bien sûr, de Marly à Versailles. Mais ça me permet de vous dire aussi de rappeler que dans mon livre, j'ai tenu à signer non seulement tous ces grands voyages, mais aussi tous ces petits déplacements au jour le jour, quand il y avait un déplacement à Marly, qui est vraiment distant d'une très petite distance de Versailles. J'ai tenu quand même à signer tous ces déplacements à Marly, et même ces déplacements à Trianon, qui est un lieu dit, un hameau dans le parc de Versailles, mais quand même à l'écart. Alors j'ai même signalé les déplacements à Trianon.
À quelle période de l'année le roi voyage-t-il ? Est-ce qu'on peut répertorier des mois en particulier ?
Alors, on peut répertorier d'autant plus facilement des mois que des mois de déplacement quand cela concerne les campagnes militaires. On suivait en général les usages de l'époque, qui étaient de faire la guerre quand il faisait beau. Ce qui fait que, au moins, les gens étaient tranquilles. Pas toujours le cas, mais il y avait des exceptions, il y a eu des exceptions connues, mais au moins les gens pouvaient se reposer l'hiver, et on ne faisait mouvoir les armées, surtout pour des raisons d'alimentation des chevaux. Faut pas oublier ce moyen de transport indispensable à l'époque, qui était le cheval, et que le cheval mangeait, et donc tous les impératifs alimentaires du cheval pesait aussi sur les déplacements du roi et de son armée, de ses armées. Donc, en général, il y avait une campagne militaire au milieu de l'année. Le roi, d'ailleurs, ne suivait pas forcément la campagne entière. Il partait parfois, il revenait avant la fin. Parfois, il y a des années que j'ai signalé, j'ai fait un tableau pour indiquer que dans certains cas, certaines années et un certain nombre d'années, il est parti pour deux voyages militaires et une fois, je ne sais plus quelle année, il est parti trois fois. Donc c'était variable et certaines années, contrairement à ce que je vous disais sur les saisons, il est parti au mois de février et il est revenu, au mois de novembre, peut-être pas la même année, mais en tout cas, il est revenu il est parti il est parti tôt dans l'année, il est rentré tard dans l'année.
Vous répertoriez, on vient de parler des chevaux, et vous répertoriez dans votre ouvrage quatre moyens principaux de locomotion, donc la marche à pied, la calèche, le carrosse et le cheval. À quel moment le roi décide qu'il doit se déplacer en carrosse ou à cheval ou à pied?
Alors à pied, c'est pour des déplacements évidemment modestes, qui ont des motivations différentes, qui peuvent être des motivations religieuses. Ils se déplacent souvent pour des pèlerinages, des motifs de dévotion. Donc, le plus connu étant la Sainte-Baume ou Cotignac, où il accomplit un certain trajet à pied. Je n'ai plus la distance en tête, mais une partie en carrosse, après une partie à cheval et la dernière partie à pied. Et d'autres fois, c'était pour se faire un peu mieux voir de ses peuples, mais donc des déplacements quand même modestes. La calèche est un moyen intermédiaire de déplacement léger qui pouvait parfois être conduite par le roi lui-même. Le carrosse, c'est la solennité absolue, le monument monstrueux de dorure et de beauté et de majesté, mais qui n'était pas toujours facile de mouvoir dans des endroits, enfin en tout cas il n'était pas question de mouvoir dans des endroits difficile d'accès. Et le roi lui-même, lui faisait appel à son cheval pour des raisons aussi de majesté, notamment lors de son entrée à Paris avec la reine en 1660. Il a voulu laisser la reine dans son carrosse et lui rentrer dans la ville à cheval. Et dans d'autres cas, il aussi montait à cheval pour se faire voir. Et enfin, ne pas oublier le fait que, comme aujourd'hui, le cheval était parfois, quand il faisait beau, quand le paysage était agréable, quand le temps s'y prêtait, et mon Dieu, le cheval était même à l'époque un moyen de déplacement agréable.
On a parlé de nombreuses motivations de voyage, on a parlé des pèlerinages, expéditions militaires. Est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs combien de motivation pour voyager, vous pouvez répertorier, grosso modo?
J'ai donné je ne sais plus combien de motivations, mais très artificiellement, en sachant en prévenant bien que de toute façon, même si on peut déterminer ces motivations, on sait bien que de toute façon, aucun voyage pratiquement n'avait qu'une seule motivation. Quelques voyages très courts, des déplacements dans les résidences favorites autour de Paris, peuvent eux n'avoir qu'une seule motivation de délassement, y compris de chasse, mais qui faisait partie du délassement. Mais sinon, tous les grands voyages sont des voyages qui sont souvent des voyages à la fois politiques, matrimoniaux, de relations diplomatiques, militaires, bien sûr, et il est difficile de leur attribuer une seule motivation. Le grand voyage, par exemple, à Nantes en 1661, bien sûr, avait lui la raison essentielle de préparer et d'assister faire procéder à l'arrestation du surintendant Fouquet. Donc là, c'est une motivation politique évidente. D'ailleurs, il s'est fait avec une vitesse étonnante. importantes, d'autres sont plus essentiellement militaires, certainement, mais même dans les villages, dans les voyages militaires, le roi complétait sa formation, et je évoquerai là une question que j'ai retrouvée avec étonnement au fur et à mesure de mes découvertes, de mes avancées dans les voyages du roi, c'est que le roi systématiquement arrivait autour des villes et auprès des places fortes, faisait le tour des remparts et des fortifications qu'il aimait beaucoup observer et pour lesquelles il était devenu presque, je dirais peut-être d'une façon peut-être un peu exagérée, mais presque un expert. C'était vraiment un grand connaisseur en fortification, peut-être pas autant que son aide Vauban, le maréchal de Vauban, évidemment expert en lui, tout à fait dans ce domaine. Mais le roi avait certainement acquis des connaissances importantes dans ce domaine, et il allait à chaque fois qu'il arrivait dans une ville, avant même de se reposer, alors qu'il avait chevauché ou qu'il avait été dans son carrosse pendant de nombreuses heures, il se dépêchait de faire le tour à cheval de la ville en question, de la forteresse en question, pour observer ses fortifications.
Comment se prépare un voyage royal, hormis, je pense, les expéditions militaires qui doivent avoir des caractéristiques particulières, mais pour tous les autres voyages, comment c'est organisé, combien de temps à l'avance et qui accompagne le roi?
Alors c'est très variable, bien sûr, selon les cas. Le cas le plus significatif, bien sûr, étant ce grand voyage de mariage qui a duré plus d'une année entière, suivant d'ailleurs le précédent dont je vous ai parlé tout à l'heure à Lyon. Donc en deux ans et demi, trois ans, il a voyagé pratiquement deux années complètes. Lors de ces voyages, il était accompagné, bien sûr, d'une suite très importante. On a évalué la suite du roi peut-être à 10 000 personnes, peut-être même plus. Compte tenu du fait que, en sachant bien que le roi était accompagné de personnes qui le suivaient de près, mais aussi pour des raisons diverses, pour des raisons de logement possible pour la suite, d'alimentation, de gens qui le suivaient à un jour ou deux près, ou qui le devançaient, ou qui le suivaient à droite ou à l'est ou à l'ouest, pour ne pas tous arriver en même temps dans les villes qui avaient bien du mal parfois à nourrir et à loger toute cette foule. Donc ça, ce sont les grands voyages dont le voyage du roi de mariage de 1659-1660 est le plus bel exemple. Et alors en revanche, évidemment, c'est tout à fait différent. Il y a les voyages militaires où il avait une suite curiale bien moins importante, quoiqu'il était accompagné par certains de ses ministres aussi pour continuer le gouvernement du royaume lors de ses déplacements militaires, ce qu'il n'a jamais cessé de faire, et accompagné de troupes qui, elles aussi, pouvaient le suivre de plus ou moins près, et on sait dans certains cas qu'il ne devait retrouver que sur place sa suite habituelle. Donc on doit distinguer, bien sûr, entre la suite dans le sens large qui se trouve à différents endroits de son voyage, et la suite vraiment qui le suivait dans les déplacements de près. Mais il avait certainement quand même, sauf dans certains cas comme le cas que je viens d'évoquer du voyage à Nantes, et c'est l'un des cas extrêmes où là il s'est déplacé très très rapidement, il a fait ses 445 kilomètres je crois, à l'époque il était à Paris, donc il a fait ses 445 kilomètres en 75 heures je crois. On ne connaît pas les temps de repos, c'est pour ça que c'est difficile de calculer la vitesse, on ne connaît pas ses temps de repos et d'alimentation, mais quand même, c'était une vitesse très importante qui lui a imposé d'avoir recours à ce qu'on appelait les chevaux de poste, c'est-à-dire des chevaux frais qu'il attendait de place en place pour pouvoir galoper ou en tout cas trotter largement et rejoindre ces endroits où il retrouvait une partie de sa suite, mais certainement que lors de ces voyages-là, il était était accompagné d'une suite bien moins nombreuse que lors des grands voyages que je viens d'évoquer. Tout en sachant aussi que la vitesse est une chose importante à connaître, mais qu'elle est tributaire de choses très simples, que l'on a un peu oublié aujourd'hui, c'est la vitesse des piétons, qui pouvaient être plus ou moins aussi grandes selon leur fatigue, selon leur charge, et dont on devait tenir compte, le roi aussi devait en tenir compte quand même. C'est pour ça que la vitesse générale est plutôt de 4,5 km/h, 5,5 et demi, en général, en moyenne, mais la vitesse militaire pouvait être encore plus faible, de l'ordre de 2 km/h, parce que là, les armées se déplaçaient avec encore plus de difficultés. Et en revanche, quand le roi avait besoin d'aller plus vite, eh bien, mon Dieu, c'était la vitesse du cheval. Et on sait que le cheval, au maximum, peut galoper à 25, 30 km/h. C'est une vitesse qui n'a pas dû changer depuis Louis XIV. Et donc, c'est une vitesse maximale, mais qui pouvait quand même lui permettre d'accomplir, de couvrir une grande distance lorsque, comme je vous l'ai dit, les chevaux, il pouvait trouver des chevaux frais à différents endroits de son parcours.
Quelles sont les principales difficultés à prévoir et à anticiper dans la préparation du voyage ? En termes, est-ce que c'est une question de c'est le temps ? Est-ce que c'est la peur d'être attaqué ?
La peur d'être attaqué, non pas trop. Je pense que Louis XIV ne craignait pas trop. Non, il était bien entouré. De toute façon, c'était pas non plus vous savez, c'était le roi de France, c'était quelqu'un de très respecté. Même s'il y en a, on connaît plusieurs exemples malheureux de rois de France assassinés. D'ailleurs, les rois de France étaient plus souvent assassinés qu'ils n'assassinaient, comme le disait, je crois, à son époque, Louis XVIII. Et donc, il n'avait pas de grand risque. Enfin, il était toujours accompagné quand même d'une suite minimal. Mais pour ce qui est de la préparation, mon Dieu, il y avait plusieurs sortes de besoins, donc l'alimentation, les chevaux, l'accompagnement du roi et tout cela, et le gouvernement dont je vous ai parlé aussi, j'ai dit un mot tout à l'heure. Donc tout cela dépendait bien sûr des principaux ministres et des grands officiers de la couronne qui étaient chargés chacun d'un département et étaient plus ou moins concernés selon leurs fonctions par le grand écuyer. Les grands officiers de la couronne qui étaient plus ou moins concernés par la préparation de ces voyages. Évidemment, Louis XIV s'en mêlait pas trop, sauf qu'il, quand il donnait les ordres pour dire qu'il voulait partir à telle époque et qu'il voulait aller à tel ou tel endroit, en passant par tel ou tel endroit, mais sinon pour le reste, bien sûr, ça dépendait de tous les services concernés de Versailles qui étaient très nombreux. Je parle de Versailles, mais c'était bien sûr pareil avant à Saint-Germain, ces villes étant devenues des petites cours et des petites villes même du fait de la présence de tout ce personnel qui donc voyageait aussi en partie avec le roi.
Alors le roi voyageait avec sa cour, mais comment est-ce que il gouvernait pendant ces grands déplacements ?
Eh bien, on le sait aussi, notamment, je l'ai étudié plus particulièrement lors de son grand voyage de 1687 à Luxembourg. Nous le savons à l'aide des auteurs qui ont suivi le roi et qui ont relaté la présence des ministres et la tenue des conseils. Et on s'aperçoit donc que, d'abord, tous les ministres n'étaient pas présents. On sait ceux qui suivaient le roi. Certains étaient présents à certains moments, quittaient le roi et retournaient à Versailles pour traiter les affaires qu'ils avaient à traiter. D'autres suivaient le roi plus régulièrement. Il y avait d'autres personnages moins importants, moins élevés dans la hiérarchie gouvernementale qui, évidemment, suivaient le roi comme les conseillers d'État. Et puis, le roi, quand même, malgré tout, dans sa tente, tenait presque quotidiennement des conseils de gouvernement, comme on a pu le voir, comme on a pu le dire et l'expliquer, le relater, notamment pour ce grand voyage de 1687. Bien sûr, pour les voyages dont vous parlez beaucoup plus rapides, comme celui de Nantes en 61 ou à Calais et Dunkerque en 62, qui était aussi un très long voyage, un très court, très rapide voyage. Il n'était pas question de gouverner de la même façon, mais ce furent aussi des voyages beaucoup plus courts et beaucoup plus rapides.
Une dernière question, Christophe Levental. Est-ce qu'on connaît les expéditions, les voyages favoris du roi? Est-ce qu'on sait quels sont les déplacements qu'il a le plus appréciés?
On sait en tout cas les résidences dans lesquelles il s'est plu à retourner le plus souvent dans sa vie. Au début de sa vie, il allait souvent à Vincennes, mais on pense que le souvenir de Mazarin, qui avait fini par peut-être lui peser un peu, avait incité le roi à négliger, à abandonner Vincennes. En revanche, il est allé toute sa vie à Fontainebleau, qu'il manifestement il aimait beaucoup, pour des raisons diverses, mais aussi principales de chasse, et à Compiègne, et dans des endroits, soit des châteaux royaux, soit des châteaux de ses parents et amis. Je pense au Villeroy, qui habitait justement c'est à mi-chemin de Fontainebleau, donc presque à chaque fois le roi pendant toute sa vie, quand il allait à Fontainebleau, s'arrêtait pour la nuit, une nuit à Villeroy. Et de même, quand il allait à Compiègne, il allait fréquemment chez le duc de Mouchy, qui avait son château juste au nord de Compiègne, et qui avait aussi un endroit qui avait aussi l'avantage d'avoir des terrains favorables pour que les armées du roi puissent faire des exercices. Et le roi tenait beaucoup à surveiller et à faire à ses armées, à ses troupes, des exercices réguliers, d'assister à ses parades, à ses exercices militaires. Donc, il fallait trouver des endroits où c'était favorable à ces évolutions, et certains endroits sont connus comme plus proches de Paris, comme la plaine d'Ouille, et plus éloignés comme Monchy, donc où il y avait de nombreuses parades exercices militaires. Donc des endroits. Et il aimait aussi aller chez son fils à Sceaux, chez ses fils légitimés, le comte de Toulouse et le duc du Maine, et puis chez les Condés. Très souvent, quand il allait vers le nord, il s'arrêtait à Chantilly pour passer une nuit aussi ou plusieurs jours chez les Condés, ses cousins à Chantilly, où il chassait également. Donc chasse également Chambord, bien sûr, qu'il aimait beaucoup, et pour des raisons de chasse également. Chambord, qui se trouvait en plus sur le chemin de tous les voyages que le roi avait fait, soit vers la Bretagne, soit vers le sud. Voilà, donc des endroits où il retournait, à la Fère, qui était bien placée, aussi en direction des voyages du Nord.
Merci beaucoup, Christophe Levental, de nous avoir présenté ce point de vue trop méconnu du règne de Louis XIV, ce roi qui préférait ainsi les fatigues des voyages aux délices de la cour, comme on peut le lire dans la Gazette de Théophraste Renaudot. Je vous invite très vivement